Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Flavien de Playtime et de ProxyJeu. Aujourd'hui c'est les deux en même temps puisque l'interview sera diffusée via les deux réseaux, donc via Playtime et via ProxyJeu, puisqu'on va parler aujourd'hui de proximité, parce que je suis avec Mickaël, donc de Debretzel et des Jeux et de Philibert. On va bien réexpliquer les différences entre Debretzel et des Jeux et Philibert, même si forcément il y a des liens. Bonjour Mickaël.
Salut à tous.
Alors Debretzel et des Jeux, c'est un festival qui se tient cette année, qui s'est déjà tenu il y a 2 ans, qui se tient à Strasbourg. Tu vas nous donner déjà les informations pratiques, donc date, lieu, horaire, prix, accès.
Alors Debretzel et des Jeux, ça se déroulera le 3 et 4 juin de cette année en 2017. Ça se passe à la place de la Bourse, qui est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. C'est exactement au même endroit qu'il y a 2 ans. C'est une place qui est assez connue des Strasbourgeois, qui est assez facile à trouver. Pour un week-end de jeu, donc de 10h à 19h le samedi, de 10h à 19h le dimanche. L'entrée est gratuite parce que c'est l'idée de faire un festival ouvert à tous et pour que tous ceux qui sont curieux puissent venir jouer. Puis voilà.
Et donc au niveau de l'accès, effectivement, alors on parlera après du public visé. Est-ce que c'est un public local, régional, national? On verra après. Mais c'est vrai que la salle de la Bourse, c'est juste à côté du tram. Il y a l'arrêt Étoile Bourse qui est directement accessible depuis la gare notamment.
Oui, exactement, il y a quelques arrêts de tram de la gare jusqu'à la place de la Bourse, il y a du parking à côté, c'est dans un quartier résidentiel, donc il y a également de quoi se garer dans les rues. C'est accessible en vélo aussi parce qu'il y a des pistes cyclables partout. Enfin bref, c'est un des intérêts de cette salle là et de cette place là, c'est vraiment qu'elle soit accessible facilement.
De toute façon, toutes les informations sont aussi disponibles sur le site, je pense, qui a été mis à jour ou qui sera mis à jour.
Oui, exactement. Le site, c'est www.debretzeledesjeux.fr. Et effectivement, on y retrouve toutes les infos pour s'y rendre. Et puis, tout le programme, tous les animateurs et les éditeurs présents.
D'accord. Alors, on va parler, j'ai dit, Debretzel et des Jeux, Philibert. J'avais fait une interview il y a 2 ans. C'était Gauthier qui nous en avait parlé pour le coup. Debretzel et des Jeux est une association, c'est ça?
Oui, Debretzel et des Jeux, c'est le nom du festival. C'est aussi le nom de l'association qui coordonne le festival. En deux mots, le lien avec Philibert, c'est que Philibert est partenaire de cet événement. C'est la boutique de Strasbourg, donc c'est aussi, elle est présente pour vendre les jeux sur le week-end. C'est aussi un partenaire financier parce que c'est une partie du budget qui est financée par Philibert. Et puis d'un point de vue plus humain, c'est aussi les coordinateurs du festival viennent de Philibert. Il y a Gauthier, il y a Manuel et puis il y a moi-même. Et puis on coordonne le festival, on organise un peu la chose en partenariat avec les associations ludiques de Strasbourg et même d'un peu plus loin.
On va peut-être faire un petit rappel de l'édition 2015 qui avait été un succès pour une première édition. C'était déjà à la salle de la Bourse. Alors on parlera après des modifications par rapport à il y a 2 ans au niveau de l'espace. Mais est-ce que tu peux nous rappeler quelques chiffres de 2015, déjà 2 ans?
Alors oui, 2015 c'était la première édition. Ça faisait quelques années déjà qu'on se tâtait à lancer un festival et puis on s'est dit bon allez, on se lance. Les associations étaient motivées, nous on était motivés, il fallait juste un peu lancer la pulsion. 2015 donc première édition. Oui, nous on était contents dans le sens où il y a eu plus de 3000 joueurs sur le week-end, ce qui pour nous était un succès, même si ça reste un petit festival en soi, mais on était très contents de cette première édition. Dans la salle de la Bourse qui fait à peu près 500 mètres carrés, donc c'est pas très très grand finalement, mais surtout on était vraiment contents de l'ambiance qu'il y avait, des associations qui étaient motivées pour poursuivre le projet, qui se sont fédérées autour de ça, les éditeurs qui avaient répondu présent, et puis donc le public qui, d'après les retours qu'on avait eu sur Facebook, etc., était assez content de l'événement. Donc pour nous c'était une réussite dans le sens où c'était vraiment ce qu'on voulait faire, un week-end de jeu convivial, sympa et puis ouvert à tous. Ouais.
D'accord, ouais, c'est vrai que bon, tu dis 3000, ça reste un petit festival. Pour une première édition, c'est quand même déjà un bon chiffre. Il n'y en a pas eu en 2016. Pour quelle raison?
Alors, la raison, c'est que justement, cette petite salle de la Bourse de 500 mètres carrés était devenue trop petite. C'était déjà un peu serré. C'est sans doute un des petits reproches qu'on aurait pu faire à l'édition 2015. Donc, il a fallu grandir. Et pour grandir, il a fallu faire ça de façon cohérente. Ça veut dire trouver des partenaires, ça veut dire lier en l'occurrence à un partenariat avec la ville de Strasbourg, qui est un petit peu l'évolution pour 2017, puisque le festival est co-organisé avec la ville de Strasbourg et le service événementiel. Ça nous permet d'avoir plus de moyens techniques, ça nous permet d'avoir quelques moyens humains, ne serait-ce que pour le montage-démontage du festival. Et puis aussi, ça nous permet d'avoir un petit financement qui nous permet de voir un petit peu plus grand. Alors, voir un petit peu plus grand, ça ne veut pas dire aller au Rhénus, parce qu'on a fait les devis et c'est abominablement cher.
Et en plus, pour ceux qui ne sont pas familiers de la géographie strasbourgeoise, le Rhénus est excentré, alors que la salle de la Bourse est vraiment dans le centre. Donc même en changeant, parce qu'il y a eu du succès vers quelque chose de plus grand, est-ce que ça sera rempli du fait que c'est excentré?
Ouais, le Rhénus c'est aussi accessible, mais effectivement c'est une énorme salle, donc c'est bon, ça aurait été un pari, ça viendra peut-être dans le futur. Mais c'est vrai qu'entre le Rhénus Vénus et là la salle de la Bourse, il n'y a pas obligatoirement de salle à Strasbourg même. Donc il a fallu grandir et donc cette année on est dans la salle de la Bourse mais aussi sur la place de la Bourse avec des tonnels, des cottages pour que les éditeurs puissent présenter leurs jeux sur la place de la Bourse et accueillir beaucoup beaucoup plus de monde et avoir beaucoup plus de place.
Donc ça c'est un des changements effectivement, c'est la présence en extérieur toujours dépendante de la météo. On l'a vu à Paris Ludique qui est un festival uniquement extérieur, même s'il y a là aussi des tonnels, etc. Alors Paris Ludique, en général, a eu de la chance. L'an dernier, il y avait un peu de vent et de sable, etc. Mais dans l'ensemble, ça allait. Du coup, c'est un risque.
Ouais, clairement. C'est le risque, le gros risque. Alors, on croise les doigts, bien sûr. Le festival, comme dit, c'est le 3 et 4 juin. Donc, on va espérer qu'au mois de juin, il fasse à peu près beau. Mais bien entendu, c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir. Pour le vent, la poussière, bon, là, la place de la Bourse, l'avantage, c'est que c'est un parking en temps normal. Donc, on va dire que c'est assez propre, on va dire, quoi. Il n'y a pas ce côté sable. Mais oui, pour ce qui est de la pluie et du vent, de la grisaille, oui, ben ça on va prier tous les dieux qu'il faut.
Mais vous avez prévu des tonnels, c'est ça de toute façon?
Oui, c'est des cottages qui font 25 mètres carrés, sous lesquels il y aura 4 tables où les éditeurs vont pouvoir présenter leur jeu. Après, c'est clair que si jamais il pleut ce week-end-là, si jamais il fait gris, ça risque d'être moins bien, on risque d'avoir moins de monde, c'est certain. Mais bon, on croise les doigts et puis de toute façon on n'a pas le choix, donc allons-y.
On invite les auditeurs à croiser les doigts aussi pour vous, comme ça on aura encore plus de chances que ça fonctionne. Donc ça c'est un des changements effectivement pour agrandir l'espace, même si on a dit que c'est le même lieu, hein, la place de la Bourse est vraiment juste en face de la salle de la Bourse. Il était aussi question à un moment de mettre différents endroits dans la ville en extérieur pour essayer de faire un espèce de parcours qui ramènerait à la place de la Bourse. C'est quelque chose qui a été abandonné, ça?
Ça a été évoqué, c'est ambitieux mais c'est pas dénué d'intérêt. C'est vrai que la place de la Bourse n'est pas dans l'hypercentre, même si c'est quand même dans le grand centre de Strasbourg, on va dire. Et l'idée, ça aurait été effectivement, mais ça peut être un truc qu'on garde en tête pour une année prochaine, pourquoi pas, c'est d'avoir comme ça un cheminement de 3-4 places qui se suivent entre la place Kléber et la place de la Bourse, avec la place de Sterlitz, la place Broglie, Gutenberg, pardon, pas Broglie, mais d'avoir comme ça une sorte de chaîne de places, ouais, pour essayer d'avoir un festival un peu dans la ville et qui couvre différents endroits.
Ouais. Donc avoir éventuellement si pour des éditions futures. L'autre changement, donc tu l'as évoqué, c'est la subvention de la ville qui avait pas il y a 2 ans, parce que je crois que c'était une question de calendrier ou quelque chose comme ça, ou en plus c'était un premier événement, sachant que la ville elle a un intérêt là-dedans, c'est lui faire un événement à l'été ou approximativement. Donc c'est aussi l'aura de la ville de Strasbourg qui joue là-dessus. Donc ça c'est un financement au niveau du fonctionnement financier du festival. Alors t'as parlé de Philibert qui est un partenaire financier, t'as parlé de la ville, il y a quoi d'autre qui permet entre guillemets de rentrer dans les fonds? C'est comme le festival est gratuit.
Effectivement, les financements, c'est une subvention de la ville, c'est Philibert. On a également demandé cette année une participation aux éditeurs. Ce qu'il faut voir, c'est que l'édition 2015, c'était vraiment un galop d'essai, c'était vraiment faire le test de savoir est-ce qu'un festival de jeux pouvait avoir lieu à Strasbourg. Comme ça, on aurait pu dire, bah oui, c'est une grande ville, mais on avait quand même envie de tester. Donc en 2015, effectivement, les stands étaient gratuits pour les éditeurs aussi. Le financement avait été fait vraiment que par le billet de Philibert et c'était l'idée. Et puis de la buvette, bien entendu, parce qu'on vend bière et bretzel, on est en Alsace.
Même s'il y avait des food trucks qui vendaient des pizzas et des tartes flambées aussi.
Ouais, effectivement, il y a quelques food trucks pour ceux qui voulaient manger chaud. Là, cette année, donc pareil, donc il y a la ville, il y a Philibert, il y a les éditeurs qui effectivement qu'on a fait participer pour la location des stands. C'est quelque chose qui maintenant est un peu rentré dans les mœurs auprès des éditeurs. Autant il y a quelques années, c'était peut-être compliqué de leur demander une participation, autant là, on sent que c'est que l'habitude est ancrée, et c'est logique pour eux. Donc voilà. Après, on a demandé des prix obligatoirement élevés parce qu'on sait que c'est pour les éditeurs un investissement, c'est un déplacement en train, c'est éventuellement des animateurs qui payent. Bref, c'est beaucoup d'investissements, donc on a essayé d'être raisonnable aussi là-dessus. Et puis après, effectivement, on compte sur l'apport de la buvette également, et tout ça devrait à peu près coller, ouais.
Ouais, heureusement, il reste la buvette. On a parlé des changements, il y a des choses qui restent. Il y a notamment Martin Wittberg qui a encore une fois réalisé l'affiche du festival. Martin Wittberg, il y a une interview de Playtime pour ceux qui seraient intéressés, mais on a évoqué notamment la collaboration avec Philibert depuis des années sur le site, etc., pour notamment réaliser les portraits des Philibert Boy sans pantalon. Et donc là, il a re-signé pour l'affiche.
Ouais, c'était un peu naturel de lui demander. Il avait fait la première affiche, celle de la première édition, et c'était naturel de lui redemander s'il était intéressé. Il a tout de suite répondu présent. Il était très motivé pour la faire, et puis il nous a proposé quelques croquis. Donc moi, j'adore spécialement celle de cette année parce que je la trouve vraiment vraiment très très chouette. C'est une cathédrale faite en boîte de jeu, en éléments de jeu. Donc je vous mets au défi de retrouver tous les jeux qui sont représentés ou par leur boîte ou par le matériel sur l'affiche, mais c'est assez aff- affolant le travail qu'a fait Martin. Enfin, il a de nouveau aussi, on retrouve sa patte et c'est vraiment très très. Il a fait une hyper belle affiche.
Ouais, j'ai vu sur Twitter là hier des gens qui disaient mais c'est Martin qui l'a fait, parce que autant les bretzels on voit que c'est du Martin, autant le reste on dirait pas. Et lui il était content, il disait bah ouais, ça m'a permis de faire un peu autre chose, justement d'essayer autre chose au niveau de l'architecture. Donc il était aussi content de pouvoir un peu faire autre chose. Au niveau des partenaires, donc il y a les éditeurs qui eux vont payer cette fois-ci pour avoir une table, ce qui effectivement est rentré dans les mœurs, c'est eux, ça leur fait de la communication, etc. Donc c'est logique quelque part. T'as parlé des associations, il y a des partenaires locaux, lesquels?
En tant qu'association, ouais. En tant qu'association, donc c'est principalement des associations de Strasbourg, mais il y en a de tout le Bas-Rhin, y compris quelques-unes dans le Haut-Rhin. On parle notamment à Strasbourg de la Sauce aux Jeux, de la Maison des Jeux de Strasbourg, des Kékés, de la Rue des Jeux. Voilà, j'ai commencé à les lister, donc si j'en oublie, maintenant je vais me faire taper.
Ils pardonneront et puis ils taperont dessus le 3 et 4 juin.
Mais on a aussi le club 777 de Colmar, qui est avec David, qui est très motivé à participer un petit peu, l'association Jeux Cadeaux à Kaisersberg. On a la ludothèque de la Méno, la ludothèque de Bernay. Voilà, j'espère. Si j'ai dû en oublier, et je m'en excuse.
On en oublie toujours.
Bref, on est toujours en partenariat avec cette dizaine d'associations.
Et leur rôle là-dedans, c'est quoi? Alors, je sais, on parlera des bénévoles après. J'imagine que vous allez faire des appels à bénévoles encore une fois cette année, même si tu as parlé de la ville qui aiderait au montage des montages. Le rôle des associations, c'était notamment d'être un relais pour ça au niveau des bénévoles, de faire appel aux personnes de ces associations. Il y a quoi d'autre comme partenariat?
Au niveau des associations aussi, on a des associations qui ont chacune leur couleur ludique et qui ont leur passion propre. Et donc, on a cette année aussi un espace initiation au jeu de rôle avec la Sauce aux Jeux, qui l'avait déjà fait en 2015, avec des modules faciles à prendre en main, avec un animateur qui est là pour animer les tables de jeu avec des décors et donc faire du jeu de rôle un petit peu facile à prendre en main, à initier. Et puis, on a également aussi un partenariat spécifique avec la Maison des Jeux de Strasbourg, qui va animer un espace jeu traditionnel, parce que c'est un petit peu leur goût aussi. Et donc, ils vont animer tout ce qui est soit jeu surdimensionné, soit jeu traditionnel en extérieur. Donc là, ça va être aussi deux zones un peu spécifiques du festival qui vont être animées par des bénévoles. En autre partenariat, on a Bully, qui est une marque de bretzel alsacienne. On avait hésité avec Ansel, mais comme Ansel est plus tout à fait alsacien dans son capital, on s'est dit, bon, allez, jouons la carte locale. Donc c'est Bully de Gundershoffen. Et c'était l'idée d'avoir un partenaire bretzel parce qu'on trouvait ça rigolo. Enfin, pour un festival qui s'appelle Des Bretzels et des Jeux, on avait les jeux, on avait des bretzels l'an dernier, on en aura toujours cette année, mais là on a aussi les sticks et les bretzels avec Bully. Ça nous permet d'avoir un petit partenaire rigolo. C'est pas financier pour le coup, c'est vraiment sous forme de lot, de dons pour soit la buvette, soit les tournois. Donc ceux qui gagneront leur les tournois qu'on va mettre en place, je peux déjà l'annoncer, gagneront leur taille en paquet de bretzels Bully. Voilà.
Je crois qu'il va y avoir personne pour faire les tournois avec cette annonce. Et Bully, il y aura toujours des food trucks comme l'an dernier également?
Ouais, c'est l'idée d'avoir des food trucks. Pour être tout à fait franc, la restauration, c'est quelque chose de spécifique. Il y a une réglementation vis-à-vis de l'hygiène, etc. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas trop envie de jouer avec ça. Donc oui, on fait appel à des food trucks pour la partie restauration. En sachant que comme le festival est gratuit, il n'y a pas d'obligation à manger sur ces food trucks-là. Mais en tout cas, ils seront à disposition pour effectivement des petits plats. On essaye d'avoir des choses un peu différentes. On essaye d'avoir des trucs sains et puis aussi des tartes flambées.
Les tartes flambées qui vont... Il n'y a pas un tournoi où tu gagnes ta taille en tarte flambée, non? C'est pas prévu.
À voir.
Ok, et au niveau de la communication, alors la dernière fois, donc c'était 3000 visiteurs. Il y avait des gens, bien sûr, d'Alsace. Moi, je me rappelle avoir fait des interviews de joueurs et il y avait des familles qui avaient entendu. Il y a la radio locale qui avait retransmis Top Music, je crois, qui en avait parlé et des gens qui avaient dit « Ah oui, j'ai entendu ça », alors je me suis dit « J'y vais y aller ». Il y a aussi le fait que ce soit, effectivement, il faisait beau, donc les gens se promènent « Ah tiens, il y a ça, bon, on y va, c'est gratuit », et puis finalement, ils se retrouvent à connaître un monde qu'ils connaissent pas forcément. Là, est-ce qu'on continue à vivre? Mais il y avait aussi des gens qui étaient venus de plus loin, alors des éditeurs, mais pas seulement, il y avait des joueurs de Belgique et même d'autres pays, ou en tout cas d'autres régions. Là, le public visé, ça reste principalement local ou vous essayez d'étendre un peu?
On a deux types de publics, clairement. Ça colle aussi avec les éditeurs qui seront présents sur le festival. Globalement, les deux publics, c'est le public, bien sûr, de joueurs passionnés parce que c'est le public qui vient faire les festivals de jeux, qui se déplace pour ça. C'est vrai qu'on était étonné sur l'édition 2015 d'avoir des gens de Belgique, de Suisse. On avait des gens de Nancy, Metz, Lyon, donc un peu là, on va dire, le grand est de la France et puis les frontaliers, on va dire, la Belgique, la Suisse. Donc ça, on était assez étonné. Pourtant, c'était une première édition et les gens ne savaient pas à quoi s'attendre et certains s'étaient quand même déplacés. Donc ça, c'était assez dingue.
Mais... D'autant que la communication avait été faite, je crois, vers fin avril, début mai, hein, il me semble.
Oui, oui, on avait monté le festival en 3 mois, donc c'était un peu à l'arrache, mais néanmoins ça s'était bien passé. Et oui, le bouche à oreille avait fait que finalement on avait quand même réussi à avoir un petit peu de monde, donc ça, on était vraiment aussi content pour ça, pour vraiment la réaction qu'il y avait eu, alors qu'il y avait finalement assez peu de communication, une communication assez tardive, enfin, mais ça s'était bien passé et les gens avaient répondu à l'appel. Donc oui, voilà, un public gamer, passionné, initié, qui est prêt à se déplacer un petit peu pour faire ce genre d'événement et rencontrer les éditeurs sur le festival.
Qui... C'est le public qui va connaître les éditeurs, pas le grand public qui lui s'en fout un peu et puis est là pour jouer quoi.
Bah, le grand public, l'idée c'est voilà de toucher aussi le grand public, donc là clairement on est plus sur des gens de Strasbourg ou du coin de la CUS, c'est aussi pour ça qu'on veut le festival gratuit, parce que c'est dans l'idée de promouvoir le jeu et que les gens qui sont curieux de tiens qu'est-ce que c'est un festival de jeu, qu'est-ce qu'on peut y découvrir alors qu'on connaît juste les 2-3 jeux qu'on joue en famille, eh bien voilà, c'est l'occasion d'avoir un festival gratuit pour ça, pour que le grand public puisse venir s'initier, venir découvrir un petit peu ce qui se fait. Et donc on a aussi des éditeurs plus grand public qui parleront peut-être plus à ce public là, mais c'est bien, je trouve, de mélanger ces deux publics là.
Et au niveau des canaux de communication, alors justement il y a ces deux publics, alors pour le public gamer il va y avoir le circuit traditionnel, Facebook, Twitter, les éditeurs qui vont faire des annonces, oui on sera ce week-end là, oui, à des prêts d'aller des jeux, éventuellement les médias, voilà, Proxy Jeux ou Trick Track ou que sais-je, Ludovox. Au niveau local justement, comment est-ce qu'on arrive à toucher ce public-là ? Alors, j'ai dit l'an dernier qu'il y avait eu la radio qui avait été touchée, les DNA également.
Oui, en grands médias locaux, on avait eu effectivement France Bleu Alsace qui était passé. On avait la radio Arc-en-Ciel aussi, qui est un peu plus spécifique, on va dire, mais qui avait aussi relayé l'information. On avait eu France 3, la télévision France 3 Alsace, on avait eu les DNA, l'Alsace. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des médias qu'on essaye de toucher aussi en amont pour essayer d'avoir un reportage, un petit article qui en amont qui vont annoncer cet événement. Là. Et après, pour toucher aussi le public local, c'est eh bien compter sur les un peu sur les blogs, ceux qui sont des blogs en général de sortie, qui sont des blogs de vie à Strasbourg, les blogs famille, tout ça c'est un petit réseau à toucher qui mine de rien permet de, je pense, de toucher différents publics et petit à petit d'avoir une communication assez conséquente, enfin, ou comment je peux dire, ou comme ça, une sorte de
élargie
quoi, élargie.
Et justement, le fait que ce soit une deuxième édition, que la première édition ait fonctionné, est-ce que auprès des DNA, etc., il me semble que pour le premier, c'était pas forcément simple de leur faire comprendre l'intérêt de l'événement, de leur dire faites un article en amont, etc., ça va toucher du monde, ça va intéresser les gens, et que finalement, c'est, je me rappelle pendant le festival où il y avait eu, comme ça, j'avais moi-même entendu à la radio, à Strasbourg, place de la Bourse, des boîtes allées des jeux, etc., et que j'avais interviewé des personnes le dimanche qui disaient ah oui, on l'a entendu hier à la radio. Là, le fait que ça ait fonctionné, est-ce que vous avez l'impression que ces médias locaux, que ce soit Pokia, je pense à Strasbourg, ou les DNA, ou les radios sont plus réceptifs?
Alors, c'est la mission du prochain mois, là, du mois de mai, pour effectivement essayer de toucher ces médias-là. Ils vont, sur la première édition, on n'avait pas trop d'ambition de les toucher, parce qu'effectivement, le festival, c'était une première édition, il n'était pas connu, je pense qu'on aurait eu du mal à les intéresser, mais on était agréablement surpris que ces médias-là s'étaient déplacés durant le week-end, effectivement, pour que, entre le samedi et le dimanche, il y avait une communication par le journal, par la radio qui avait été faite. Cette année, effectivement, on va essayer de on travaille ça plus en amont, notamment avec la co-organisation avec la ville de Strasbourg. Ça nous permet justement de toucher ces médias-là. On a la semaine prochaine une conférence de presse commune avec tous les événements que soutient la ville là sur le printemps. Et donc là, on aura les médias locaux, les gros médias locaux qui seront présents. Donc c'est clairement l'occasion de les rencontrer, de leur parler de notre festival et de les toucher par ce biais-là. Ouais.
Et alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de festivals en France. Il y en a quand même un bon paquet, plus d'un par week-end. Ouais. Le mois de juin, il y a Paris Ludique le 24-25, et donc comment est-ce qu'on fait pour finalement dire ok, vous irez peut-être à Paris Ludique, mais venez aussi là, sachant que les budgets des personnes sont restreints, etc. Comment est-ce qu'on fait finalement, pourquoi on choisit de le faire le même mois que Paris Ludique par exemple, qui est un des grands festivals, il y en a presque tous les mois, mais ce choix de date là particulièrement.
Le choix de la date avait été fait en 2015, effectivement on venait, le festival de Strasbourg venait après plein d'autres festivals qui sont déjà implantés, donc c'était pas l'idée de tomber sur le même week-end. Et là, effectivement, il y avait une sorte de fenêtre de tir entre le festival de Toulouse qui est assez renommé et puis bien sûr Paris et Ludique, sans être trop proche de Paris et Ludique, notamment pour les éditeurs, parce que eux-mêmes, effectivement, comme tu l'as dit, ont énormément de sollicitations. Il y a énormément de festivals et puis les pauvres, j'espère qu'ils ont quand même une vie de temps en temps, parce que c'est vrai que je comprends gens qui puissent pas se déplacer sur tous les événements. Donc ouais, là il y avait une fenêtre de tir qui nous correspondait bien, qui nous allait bien pour aussi pour le côté printanier. C'était une date qui nous convenait bien, sans trop de gros festivals, dans une période un peu plus calme aussi pour nous, Philibert, puisqu'on coordonne la chose, ça nous permet aussi de travailler plus sereinement là-dessus. Voilà. Après, pour ce que tu disais, comment on fait venir les gens des Bretzels des Jeux alors qu'il y a Paris Ludique, je pense clairement qu'on rentre pas en concurrence avec Paris Ludique parce que c'est énorme et que ça n'a rien à voir. Je suis allé me promener sur leur site et voir la liste des éditeurs qu'ils avaient, c'est hallucinant. Et puis, enfin, on n'a pas vocation de façon à concurrencer Paris Ludique, c'est pas l'idée. Simplement, c'est de faire sa place, voilà, dans un créneau où il y avait encore pas trop de monde à ce moment-là.
D'accord, ouais. Et alors justement, tu parlais des éditeurs. Il y en a déjà pas mal qui sont annoncés. Il y aura qui sur place, que ce soit les éditeurs, déjà les éditeurs, on va dire.
Cette année, on a une trentaine d'éditeurs avec pas mal qui ont re-signé, donc qui étaient venus, qui nous avaient fait confiance il y a 2 ans et qui reviennent cette année. Alors il y en a une trentaine, je vais peut-être pas tous les citer, mais c'est
ils sont sur le site déjà.
Quand vous entendrez cette interview, le site sera en ligne et effectivement vous aurez tous les logos de tous les éditeurs. Globalement, on a Asmodée, Gigamic, Yellow, BlackRock, on a Piatnik, Abba aussi pour les plus jeunes, pour le plus grand public justement. On a les Space Cowboy, on a Repoprod, on est très content de les accueillir cette année. Des Super Meeple, Ravensburger, Monolith, Mythic Games, Atalia, Bad Taste Game, enfin bref, on a une trentaine qui va de Asmodée à Bad Taste Game en général.
Du plus gros au plus petit, quoi. Voilà, plus petit, ouais. Ouais. Et là, c'est bouclé déjà, il n'y a plus de place.
Là, on est plein. Oui, on essaye d'arranger les dernières personnes qui nous ont dit ah faites-moi un peu de place, etc. On essaye de s'organiser, de trouver un peu plus de place, surtout à l'extérieur en fait. Mais oui, clairement là on est plein et puis malheureusement on risque de refuser aussi un petit peu de monde. Ouais.
Et du coup ça se passe comment? Alors il y a 2 ans c'était premier arrivé premier servi et vous aviez aussi dû refuser des éditeurs qui s'étaient annoncés un peu tardivement. Là ça s'est passé de la même façon. Est-ce que il y avait moyen d'obtenir une table en intérieur plutôt qu'en extérieur au cas où il fasse moche, ou bien c'était premier arrivé, bah t'es arrivé, on te met en intérieur et puis les derniers arrivés ils vont dehors?
Alors ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a vraiment lancé la communication auprès de tous les éditeurs en même temps, donc voilà, pour qu'il y ait un principe d'égalité et pas qu'il y ait de favoritisme en quelque sorte. Le prix des tables aussi était différent entre l'intérieur et l'extérieur, donc après voilà, les gens ont fait leur choix entre l'intérieur et l'extérieur. Ça s'est plus ou moins bien équilibré d'ailleurs, il n'y a pas eu trop de soucis à ce niveau là et donc ça c'est plutôt cool, parce que ça aurait été chiant aussi de gérer clairement des choix à faire entre ceux qu'on est obligé de sortir de l'intérieur pour mettre à l'extérieur ou inversement. Mais non, globalement là ça s'est rempli assez vite et effectivement c'est ceux qui nous ont répondu le plus rapidement qui maintenant on pouvait pas leur dire non bien sûr, alors que certains peut-être mettront un peu de temps à réagir, mais ça c'est malheureusement voilà, même si on a grandi, le festival est pas extensible.
Ouais, c'est la règle du jeu après, hein. Ouais. Et au niveau des auteurs, alors il y aura sûrement les auteurs du cru, hein, je pense à Jacques Barrio, à Guillaume Montiage ou à Dominique de la Scafa. Il y en a d'autres qui se sont annoncés déjà, que ce soit en dédicace ou juste pour passer etc. pour présenter leur jeu.
Alors on a pareil fait passer le mot un petit peu aux auteurs un peu tous azimuts. Ce qu'on peut déjà annoncer, c'est que Maxime remboursera là le samedi, parce que le dimanche c'est son anniversaire, donc il retournera du côté de sa famille, mais on pourra lui souhaiter un peu en avance son anniversaire le samedi, pour la sortie notamment de Arena for the Gods. Donc il sera présent sur le festival pour les dédicaces et pour présenter son jeu. Et après oui, on a pas mal d'auteurs qui viennent, notamment parce qu'ils sont dans leur maison d'édition. On a Rémi Gruber de Rune Édition qui sera là par exemple. En local, il y a Alain Lutrager de Multiface Édition qui aura également un stand. On a quelques auteurs qui vont venir, mais pour le moment tout n'est pas encore bouclé et on travaille là-dessus.
Des Français surtout, il n'y a pas encore. Eric Lang, il est passé en France il n'y a pas longtemps, donc peut-être que les vols des allers-retours, ou Ignacic pour Pologne ou ce genre de choses.
Ce serait fabuleux et on adorerait le faire, mais là c'est pas le festival des Bretzels des Jeux est pas encore assez grand pour ça. On a contacté Zor, qui est un éditeur allemand et qui est pas très loin de la frontière justement pour pouvoir venir. On sait qu'il vient à Kaisersberg, que sa femme parle français, mais a priori voilà, il sera pas disponible sur ce week-end-là, dommage. Mais non, pour le moment, on a fait que des Français, des Belges et des Suisses. Voilà, on a contacté les francophones.
D'accord. Et au niveau des dédicaces, alors les illustrateurs, elles sont souvent prisées pour les dédicaces. Il y en a déjà qui sont aussi prévues à ce niveau-là.
Non, pas pour le moment. On travaille aussi là-dessus, effectivement, pour essayer de faire venir l'un ou l'autre illustrateur. On est en contact par mail. Après, il faut voir si ça arrive à se goupiller sur leur emploi du temps. C'est le week-end de la Pentecôte en plus, donc c'est un week-end long. Le festival est que sur le samedi dimanche, mais bien sûr, quand c'est des week-ends longs, souvent les gens ont prévu de partir en week-end et c'est bien normal. Et donc,
ils peuvent venir en week-end à Strasbourg et en profiter. Et donc, on a dit, il y aura encore une fois la boutique Philibert qui proposera des jeux à la vente directement à la sortie du. Donc, les éditeurs n'ont pas le droit de vendre leurs jeux comme il y a 2 ans. Enfin, il me semble qu'il y a 2 ans, ils ne pouvaient pas les vendre non plus.
Oui, c'est effectivement, il n'y a pas de vente d'éditeurs. C'est la boutique Philibert qui gérera ça. C'est dans l'idée. On n'a pas eu de demande déjà de la trentaine d'éditeurs qui ont répondu en disant tiens, est-ce que.
Ouais, alors qu'on pourrait se dire, ok, on va payer, mais à côté de ça, vous ne vendez pas nos jeux et nous, on s'occupera de les vendre, mais eux, ils sont déjà vachement occupés par l'animation, je pense. Donc.
Oui, clairement, ouais, c'est ça, c'est que. Oui, clairement. Ils sont là pour. Ils viennent plus pour animer, pour présenter leurs nouveautés, leurs protos, parce qu'il y a pas mal de protos qui sont aussi annoncés. Mais pour ce qui est de l'aspect vente, ouais, ils font confiance à Philibert, et puis la boutique aura effectivement tous les jeux qui seront présentés durant le week-end, qui seront disponibles sur le festival. C'est aussi l'idée pour ceux qui viennent une fois à un festival de jeu, découvrir un jeu, qui ont eu le plaisir de se faire présenter le jeu par un animateur ou par un éditeur, se dire tiens, ça m'a bien plu, j'aimerais bien repartir avec. Bon, voilà, c'est l'occasion à ce moment-là.
Ouais. Ouais, il y a 2 ans, ça avait assez bien fonctionné. Au niveau des événements prévus, tu as parlé de se faire récompenser en taille de bretzel. Il y a quoi comme tournois qui sont prévus ou comme animation un peu particulière en dehors de ça?
Alors, pour le moment, pareil, on travaille là-dessus, mais pour le moment, on peut vous annoncer qu'il y aura un tournoi de Century. La route des épices de plan B, qui bien sûr ne va pas se déplacer du Canada parce qu'ils sont un peu loin. Néanmoins, on a un accord avec eux et donc il y a effectivement un tournoi qui sera organisé à ce moment-là. Il y a plusieurs éditeurs qui ont demandé à organiser des tournois, donc là on est aussi en train de regarder ce qui est possible de faire en termes de timing, parce que finalement le festival ne dure que 2 jours et on a beaucoup de demandes, donc on va voir, mais en tout cas des tournois seront également annoncés. Tout ça, ce sera disponible sur le site internet dès qu'il sera en ligne, ou petit à petit on va mettre à jour, et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, parce que pareil, les annonces passeront également par ce biais-là, le site et Facebook.
Et donc les bénévoles, il y a ceux des associations, j'imagine que là aussi ils sont les bienvenus, et quel sera leur rôle?
Alors pour les bénévoles, on a finalement une petite surprise, à savoir que en 2015, l'idée c'était de mélanger éditeurs et bénévoles, éditeurs et associations, parce qu'on voulait privilégier aussi cet aspect rencontre, et on trouvait ça sympa que des passionnés de jeux puissent rencontrer des professionnels du secteur, qu'il y a un échange à ce niveau-là, et ça a globalement plutôt plu en 2015, donc c'était chouette. Cette année, quand les éditeurs se sont inscrits, on leur a proposé, on leur a demandé s'ils venaient avec leur propre équipe d'animation, parce qu'on avait aussi eu le cas en 2015 où certains éditeurs étaient venus avec leur propre équipe d'animation, et finalement les bénévoles avaient fait un peu doublon, donc c'était un peu dommage. Il y avait eu presque trop de monde par rapport au stand. Donc cette année, on a simplement posé la question de savoir si les éditeurs venaient avec leur propre équipe d'animation et s'ils avaient besoin d'un coup de main bénévole. Et finalement, il y en a beaucoup qui souhaitent se débrouiller seuls ou qui ont l'habitude, a priori. C'est peut-être qu'on est peut-être qu'il y a beaucoup de festivals qui ne fonctionnent pas comme ça, où les éditeurs, en fait, viennent pour gérer leur table. Ils en ont l'habitude et ils ont parfois leur équipe d'animation et ils n'ont pas besoin finalement d'un coup de main bénévole. Donc bien sûr, il y aura quand même des bénévoles pour certaines animations, pour les tournois, sur certains stands, pour tenir la buvette bien entendu, et puis aussi un gros coup de main, notamment pour la com en amont, parce que c'est quand même un réseau qui permet de relayer les informations, et puis aussi bien entendu les tâches un peu plus sombres de montage, démontage, comme tout bon festival qui se respecte.
Ok, au niveau des bénévoles, pour suivre un peu tout ça, là vous attendez combien de personnes déjà? Vous avez 3000 personnes la dernière fois, là, vu qu'il y a plus de place et que c'est une deuxième édition, vous avez déjà des ambitions de toucher un certain nombre de publics, ou il y aurait un nombre sous lequel ce serait décevant?
Techniquement, on double le nombre de tables de jeu. La superficie du festival avec le parking, ça explose, mais ça n'a pas vraiment de sens de parler comme ça. Mais on va dire que la zone ludique double. Donc on a fait 3000 personnes en 2015. C'est vrai que si on pouvait faire 5-6 000 personnes, c'est un petit peu l'objectif. L'objectif, ce serait ça. 5-6 000 personnes.
D'accord, et donc on va boucler sur un rappel des infos pratiques sur les dates, le lieu, etc. Et puis comment on peut suivre un peu l'actualité des bretzels et des jeux.
Le festival aura lieu le 3 et 4 juin, salle et place de la Bourse à Strasbourg. Vous pouvez suivre toutes les infos qui vont bien sur l'annonce des événements, l'annonce des éditeurs, l'annonce des partenaires, des associations qui nous soutiennent sur notre Facebook, des bretzels et des jeux. On a également un Instagram, on a également Twitter et notre site www.desbretzelsdesjeux.fr. www.cdfr.fr, donc toutes les infos sur ces différents médias.
Très bien, bah écoute, je te remercie et puis bon courage pour la fin de l'organisation.
Eh ben merci, puis à très bientôt pour venir jouer.
Ça marche. Et on vous remercie d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de Playtime Proxy Jeux, crossover, comme vous voulez l'appeler. Et puis on vous dit à une prochaine. Ciao.